plutôt social-démocrate à première vue. Je ne le qualifierais pas comme journaliste, je pense qu'il essaie de faire la part des choses. Je dirais ça.
Bien, plus sur, sur le débat de fond, les médias qui manipulent l'information. Il y a été question plus tôt la semaine dernière, je pense que c'est la CSN qui a déclaré la guerre aux radios poubelles à Québec. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à ce genre de médias-là en particulier, radio d'opinion, radio qui, dans le fond, qui a comme seul but c'est ça, de soulever les foules, là, de soulever les passions.
OK. Paraît qu'on va prendre quelques questions les unes après les autres, puis après ça, je reviendrai.
Bonsoir, merci beaucoup
bonsoir.
De votre intervention. J'ai lu votre livre Illusion, justement, que j'ai trouvé passionnant. Je suis d'ailleurs en train de lire le livre Dépossession, écrit par l'IRIS, dans lequel vous avez collaboré également, donc très intéressant. En fait, par rapport à la question médiatique, j'en suis venu à me demander, on parlait tout à l'heure, tu sais, un peu ce qui guide un peu finalement les décisions qui sont prises actuellement, les mécanismes actuels, c'est finalement l'impératif de rentabilité puis de maximiser les profits des actionnaires de ces entreprises médiatiques-là. Puis, jusqu'à un certain point, même les sociétés d'État médiatiques sont soumises aussi à cette logique-là. Mais je me dis, cet impératif de rentabilité-là, je veux dire, le Québec n'est pas une île capitaliste. Nous avons des sociétés autour de nous, justement, où peut-être le modèle médiatique est différent. Moi, je me suis beaucoup intéressé en 2012 à la course à la présidentielle française, pas nécessairement par fétichisme français, mais tout simplement parce que je trouvais fascinant d'entendre des émissions d'affaires publiques, puis je pense à des émissions comme Des paroles et des actes, où on a pendant de 2 à 3 heures une interpellation d'un politicien où il y a différents spécialistes du monde politique, du monde économique qui l'interpellent. Et ça m'a rendu jaloux finalement jusqu'à un certain point des affaires publiques françaises, du moins de leurs médias, parce que je me suis dit, quand est-ce qu'ici on entend un politicien à l'extérieur du débat des chefs, dans une entrevue qui dure plus que 10, 15, 20 minutes, si on est chanceux, dans une longue entrevue de l'émission de RDI du dimanche. Voilà, c'est un peu ça que j'aimerais vous questionner par rapport aux alternatives possibles, finalement, au modèle qu'on a en ce moment.
Merci.
D'après ce que vous nous dites, puis c'est vrai, on le constate tous les jours, c'est difficile, de plus en plus difficile, finalement, d'être informé si on se contente de lire les médias traditionnels ou de masse. Beaucoup de ces médias-là pêchent, ce que je dirais, par omission. Je vais juste prendre 2 exemples au niveau international qui me viennent à l'esprit. Par exemple, on a beaucoup parlé les dernières années de la Grèce. Il n'y a jamais personne qui nous a dit dans ces médias-là que la Grèce, si on lit l'état du monde de l'automne dernier, la Grèce est encore le premier acheteur d'armes en Europe, le 4e acheteur d'armes au monde. Pourtant, tout ce dont on a entendu parler, c'est que le gouvernement était cassé. Mais on nous l'a jamais, les médias ne nous le disent jamais. C'est peut-être une raison. Deuxième exemple, qu'on passe sous silence, et pourtant celle-là, c'est plus proche de nous, les dernières élections américaines à l'automne dernier, si j'ai bien compris, le taux de participation était de 36%. C'est pas fort. 39% à New York, à peu près l'équivalent en Californie, des États que tu penserais qui sont quand même politisés. Et c'est la même chose. Même des Radio-Canada vont nous donner les résultats, qui a été élu, qui a été battu, combien de sièges à la Chambre des représentants ou au Sénat. Mais taux de participation, qui est quand même une donnée importante, on n'en parle pas. Alors, c'est là-dessus que je voudrais que vous... La question de mentir par omission.
Peut-être qu'on en prendrait une dernière, comme vous êtes déjà debout, madame.
Oui, alors c'était pour demander comment peut-on ne pas être cynique par rapport à tout ce qu'on entend dans, comme information. Un exemple, ce matin à la radio, vous parlez que l'austérité a été un grand sujet pendant beaucoup de mois. On nous dit que, tout en douce, les personnes au Parlement à Québec se sont votées un supplément qui ferait que leur salaire pourrait passer, par exemple, de 87 000 à 90 000. Alors qu'on vient de dire que tous les gens devraient plus ou moins être plus rigoureux. Alors, je ne sais pas, mais je ne comprends pas du tout. Et est-ce qu'on n'est pas en train de faire un genre d'indigestion massive d'informations qui n'ont aucun sens? Voilà.
Bien, il y a plein de belles questions qui ont été posées et qui me tendent le piège de retourner à vous parler pendant des heures. Je vais essayer d'être bref, mais bon, j'y vais dans l'ordre. Je commence par les radios poubelles. J'ai vu, moi aussi, la déclaration du Conseil central de Québec, la CSN, sur cette guerre à mener aux radios poubelles. Je pense que la CSN met le doigt sur quelque chose, peut-être un peu tardivement, qu'il faut faire quelque chose à propos des radios poubelles de ce type d'opinion-là. Est-ce que le terme « leur mener une guerre » était bien choisi, là, pour avoir un débat là-dessus? Je pense qu'il faut deux choses. Premièrement, constater que pour certaines personnes qui animent dans ces radios poubelles, ce sont d'assez bons, et surtout d'assez bons, parce que ce sont surtout des hommes, d'assez bons communicateurs. Une chose dont qu'on semble oublier. On fait comme si ces gens-là avaient du succès simplement parce qu'ils tiennent des propos orduriers ou particulièrement marqués et tout ça. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'il faut comprendre que ces gens-là font aussi assez bien leur travail. Ils font mal leur travail de journaliste, mais ils font bien leur travail de communicateur. Et là-dessus, une des choses qui me préoccupe, c'est de se dire que au lieu d'avoir d'aussi bons communicateurs qui tiennent des propos différents, on se dirait il faut éviter ces gens-là et leur faire la guerre. Moi, je pense qu'il faut, un, y aller dans les radios poubelles, confronter ces gens-là, être meilleur qu'eux sur certains dossiers, pas sur tout, on va se tromper des fois, ça ira mal d'autres fois. Mais je pense qu'il faut y aller et je pense qu'aussi on devrait avoir des lieux où de la communication affirmée, intéressante, qui accroche l'oreille et tout ça, existerait aussi. Peut-être que ce n'est pas le type de communication qui nous plaît à nous personnellement. Peut-être que ce n'est pas celle qu'on écouterait. Mais il me semble qu'on aurait collectivement avantage à avoir d'autres voix de cette qualité-là. Et ce n'est pas les premiers de la sorte, hein. Rappelez-vous André Arthur, à Québec aussi. Rappelez-vous Jean-Luc Mongrain, à la télé. C'était plutôt de très bons communicateurs. Mais on a surtout choisi de les maudire plutôt que de choisir d'apprendre de leur talent communicationnel pour faire autre chose, pour faire plus intelligent, pour faire mieux. Il me semble que là, il y aurait quelque chose à développer. Sur la question de la rentabilité et de la possibilité de faire quelque chose d'aussi bien ici que ce qui se fait en France, et là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Je jalouse les émissions d'affaires publiques françaises. Le reste de leur télé m'ennuie passablement, mais la possibilité... Bon, RFI est un bon exemple à la radio aussi, où on a vraiment une discussion intelligente sur des questions pendant, pas toujours, c'est pas toujours bon, mais souvent, on se dit, on referme la radio et on se dit, j'ai appris quelque chose. C'est quand la dernière fois que vous avez fermé médium large puis que vous vous êtes dit, j'ai appris quelque chose? Moi, ça fait un bout. Et il me semble qu'on il me semble qu'on a tout ce qu'il faut, là. Des gens qui communiquent bien au Québec, il y en a. Une radio publique au Québec, il y en a une. Évidemment, moi, j'aimerais bien qu'il y ait Daniel Turp qui dit toujours qu'il faudrait ramener Radio-Québec, mais au sens de faire une radio d'ici. Je suis tout à fait d'accord, je n'ai pas de problème avec ça. Plus encore, faisons-en d'autres. Mais quelque chose qui nous parle bien de politique, qui nous parle bien d'économie, qui nous parle bien de sciences sociales, qui nous parle bien de culture. Pas juste passer de la musique, nous parler de culture adéquatement, faire de la vraie critique, pas des guides de consommation pour dire « va voir tel show, va pas voir tel autre ». Nous avons une réflexion de nature culturelle. Mais c'est scandaleux nulle part au Québec. Là, je peux bien croire qu'on n'est pas beaucoup, mais on peut bien se payer ça. Une radio qui aurait de l'allure, là. Il me semble que c'est pas exagéré. Donc, là-dessus, même les modèles classiques, là, les modèles français, ce n'est pas des... c'est pas exceptionnel en termes d'organisation du travail, là. C'est des lieux assez classiques. Ils peuvent faire la job. Évidemment, moi, je souhaiterais mieux encore. J'aimerais... je ne sais pas si vous avez vu Jacques Cable, le journaliste, a publié un livre sur son expérience à Québec Presse, chez Éco-Société. Ça vaut la peine de lire cet ouvrage-là pour voir la tentative de la mise en place d'un journal autogéré par sa salle de rédaction. Et il me semble qu'il y a là quelque chose dont on devrait s'inspirer. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tout le monde se chicanait tout le temps, comme on pense toujours que ça va faire des milieux autogérés. Je travaille dans un milieu autogéré depuis 10 ans maintenant. Ça va très bien, merci. On est plutôt en croissance. Donc, il y a tout à fait moyen de développer des médias intelligents, bien faits, gérés par des journalistes, pas nécessairement de l'administration quotidienne, la prise de décision éditoriale que se fasse collectivement par une salle de nouvelles. Je ne demande pas à révolution, là. C'est la base même de la structure journalistique qui devrait être ça. Il me semble que ce serait intéressant. Sur la question des omissions, ben là, je veux dire, on pourrait parler pendant comme 4 heures de toutes les omissions qui sont faites constamment dans les médias. Celles qui ont été nommées sont très intéressantes, mais je pourrais aller sur des choses de base, parfois. C'est-à-dire que, pour moi, l'omission la plus forte dans le monde des médias en ce moment, c'est juste de faire des liens. Ce qu'on nommait le plus, c'est de nous expliquer en quoi cette nouvelle-là est liée aux précédentes nouvelles sur le même sujet. Puis, c'est de prendre juste... Bon, vous allez me dire, c'est le propre de l'information. On prend juste l'événement. Mais si on se donnait juste un peu plus de temps pour nous placer un peu, pour permettre aux gens de comprendre. Et si on nous parlait de la situation politique ailleurs dans le monde, autrement que dans des situations catastrophiques. Prenez par exemple, prenons quelques cas. Comment ça va au Darfour en ce moment? Quand ça va mal, on entend parler. Mais là, si on n'entend plus parler, ça veut-tu dire que ça va mieux? Ou ça veut dire qu'il y a moins de monde qui meurt, mais que ça va quand même aussi mal? Et là, je pourrais, fort probablement, j'en ai aucune idée, je le présume, mais j'ai dit le Darfour, là, mais voulez-vous qu'on la fasse, la liste de toutes les places dont on nous parle? En ce moment, à Gaza, ça se passe comment? Fort probablement assez mal, on peut présumer ça, effectivement. On en parle-tu des médias? Non, il n'y a pas assez de morts en ce moment à Gaza pour qu'on daigne nous en parler. Juste cette continuité, comprendre comment... Évidemment, ils ne peuvent pas nous parler de tous les pays du monde, tous les jours, mais de nous donner une petite mise à jour, là. C'est-à-dire, oui, au Moyen-Orient, c'est ça qui est en train de se passer. Oui, en Asie, c'est ça qui arrive, etc. Le Népal, là, on entend parler maintenant, là. C'est quand la dernière fois que vous aviez entendu parler du Népal, vous autres? Quand les maoïstes ont pris le pouvoir, là, il y a quelques années, là, on en avait parlé un peu. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait au pouvoir, les maoïstes? Personne ne sait. Hein? Je donne cet exemple-là, ça c'est le Népal, mais je veux dire, on pourrait la faire, la liste, là. L'omission, elle est constante. À cause du caractère événementiel, mais à cause aussi, et je reviens à la question précédente, de l'absence d'émissions d'affaires publiques. Au Québec, c'est de ça dont il faut parler maintenant. Il faut malheureusement parler d'absence. Bien sûr, il y a le 15-18 qui essaie de faire quelque chose à Radio-Canada, mais qui doit parler de tous les sujets, puis qui ne parle jamais plus que 5-10 minutes sur quelque chose. Au moment où ça commence à être un petit peu intéressant, on passe à l'autre affaire. Et quand on parle de la télé, alors là, les émissions d'affaires publiques télé, d'accord, il y a 24-60. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a plus. Le point, là, vous vous rappelez le point après le téléjournal avant, là? Où on passait une heure à nous parler ou une demi-heure à nous parler d'un sujet. Quand est-ce qu'on fait ça? Enjeu qui existait avant aussi. Quand est-ce qu'on fait ça? Oui, les grands reportages à RDI, hein, sur la télé payante. Bon, c'est le gars qui n'a pas de télé qui parle, mais bon. Tout ça pour dire, il me semble qu'on s'est enlevé collectivement des moyens de comprendre l'actualité. Il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant comme population quand on fait ça. Je termine avec la question du cynisme. C'est une grosse question, la question du cynisme. Je pense qu'il y a toutes les bonnes raisons au monde d'être cynique. C'est sûr, bien entendu, vous regardez tout ce qui se passe, puis vous dites, ben, voyons donc pourquoi on s'implique. D'ailleurs, ce pourquoi on a écrit Dépossession, c'est pour ça. Ça va me permettre de vous en parler, comme je ne vous en ai pas parlé. C'est un livre qu'on vient de publier à l'IRIS. Cette étrange impression. Vous savez, quand au Québec, on nous dit, « Ah, il y a eu, dans les années 60 et 70, moi, je n'étais pas là, je devine que quelques personnes dans la salle y étaient, dans les années 60 et 70, il y a eu la Révolution tranquille. C'était un moment politique extrêmement important où, au Québec, on a fait des choix. On s'est tenu debout, et tout ça. Bon, OK, on entend ça, puis effectivement, quand on voit que c'est un moment charnière de l'histoire du Québec, ce serait absurde de le nier. Et il y avait ce slogan, « Maître chez nous », qui existait à ce moment-là. Et là, on regarde la situation actuelle du Québec, puis on se dit, mais il n'y a personne au Québec qui défend qu'on devrait, ce livre-là porte sur les ressources, le deuxième va être sur les services publics, parlons des ressources. Personne au Québec qui défend on devrait exploiter toutes les mines par des entreprises privées, ils devraient exporter ce qu'on fait à l'étranger et on devrait prendre très, très peu de redevances, même pas l'équivalent d'une scène la tonne comme le faisait Duplessis avant la Révolution tranquille. Si vous avez lu sur le site de Radio-Canada, il y avait un texte à cet égard, même pas une scène la tonne. Il n'y a personne, pas un parti politique qui dit ça, qui défend cette proposition-là. Mais on serait maître chez nous. Donc, on aurait la capacité de gérer nous-mêmes nos propres ressources. Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Le cynisme, pour moi, il naît du constat de l'incapacité d'agir politiquement. L'impression que on a fait des choses, il y a eu des gestes politiques posés, et ça n'a rien donné. Eh bien, je pense que si on veut combattre le cynisme, il faut redonner à l'action politique, à l'action collective, du sens et de la capacité. Il faut que quand on se décide de faire quelque chose, ça marche. Ça fasse de quoi? Ce qui a, je pense, mobilisé une part d'une génération, c'est ce qui s'est passé en 2012 avec les étudiants et les étudiantes. Ils ont fait quelque chose, puis ça a marché. Ça n'a pas marché au complet. On pourrait en discuter. Mais ils ont fait quelque chose et ça a donné de quoi? Ils se sont dit, nous autres, quand on prend une décision collective, ça a effet. Il me semble qu'au Québec, ça fait 20 ans qu'on a collectivement l'impression qu'on pense prendre des décisions collectives, puis finalement, ça ne donne rien. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de conséquences. On se dit tous, oh, on aimerait ça être plus vert. Ah, mais là, ça, non, ça ne donne rien. Ah, on aimerait ça mieux, avoir un meilleur système de santé. Combien de politiques nous ont dit, on va régler ça, nous autres, les listes d'attente? Il y a plein de monde qui ont voté pour ce monde-là. Ils se sont dit, ils vont régler ça, eux autres, les listes d'attente. Sont-ils réglés, les listes d'attente? On se dit à chaque jour, non, ça n'a rien changé. Mais c'est sûr que, qu'est-ce que ça développe, ça, sinon du cynisme? Je pense qu'il faut reprendre collectivement les capacités politiques pour combattre le cynisme. Est-ce qu'on en prend d'autres ou on n'a plus le temps? Il y avait madame qui était au micro tantôt. Allez-y, je vous ai fait patienter, là.
Mon nom est Joanne Manta et je voulais simplement vous remercier. Je trouve que votre conférence est très rafraîchissante et, à mon avis, est peut-être, comment je pourrais dire, liée à un courant, parce que vous avez parlé de Chomsky, mais il y a aussi, Chris Hedges, qui est ici à Ottawa présentement. Alors,
c'est
je
vrai?
Me posais la question. Ah, OK. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je pensais que vous étiez peut-être en collaboration ou en communication.
Bien, je veux dire, parce j'ai lu des ouvrages de M. Hedges. Je l'ai déjà rencontré. On a organisé le lancement d'un de ses livres à Montréal il n'y a pas longtemps.
Alors, comme vous savez, c'est un ancien journaliste du New York Times et de plusieurs organismes journalistiques, et il défend le journalisme, l'intégrité du journalisme, de reprendre ce pouvoir-là. Alors, je considère que ce que vous faites est un peu dans cette ligne-là. Alors, vous êtes notre Chris Hedges.
Non. S'il vous plaît.
Du Québec,
je
n'ai
pas obtenu de Pulitzer, contrairement à M. Hedges. Allez-y.
Oui, bonjour, mon nom est Denis Pageux. Je suis en train de démarrer une nouvelle organisation qui s'appelle Citoyens et Société. Et notre objectif, c'est d'augmenter les compétences civiques des citoyens. Et là, ça comprend pas mal de choses. Et je suis ici pour réagir à votre dernier commentaire. Je pense qu'un des problèmes de la société québécoise, mais aussi nord-américaine, etc., c'est un peu la passivité des citoyens dans leur ensemble. Vous avez parlé du système de santé, puis vous disiez que les politiciens étaient pour régler le problème, puis ils régler le problème, puis ça ne la règle pas. Mais en même temps, il ne faut pas augmenter les services offerts en système de santé, il faut diminuer la demande, parce que c'est nous les problèmes. Quand les gens, je m'excuse, là, mais il faut avoir une certaine responsabilité face à ce que nous on fait. Si on fume pendant 20 ans, après ça on est malade, il y a une cause à effet. Si on va manger trois fois au McDonald's par semaine, bien, à un moment donné, ça a un impact. Alors, je pense qu'il faut qu'on se conscientise, nous, sur notre rôle en tant que citoyen, puis qu'est-ce qu'on fait qui va faire qu'on va utiliser des ressources sociétales un peu plus tard, puis qui va avoir un impact sur la demande de la santé. Si tout le monde commençait à prendre soin un peu plus de soi, bien, on utiliserait moins les ressources de la santé, puis il y en aurait plus pour les gens qui en ont vraiment besoin.
Très bien. Merci, monsieur. On va prendre monsieur là. Vous venez d'arriver, ça vous va?
Oui, bonjour. Mon nom est Pierre Lévesque. Un auteur dont j'oublie le nom a déjà écrit quelque chose comme « Ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas ce qui se passe. L'individu moyen qui veut être en mesure de jouer son rôle de citoyen responsable au sein de la cité, pensez-vous qu'il est possible, comment s'y prendre dans le contexte médiatique que vous avez décrit, comment s'y prendre pour se tenir suffisamment informé, justement, pour jouer son rôle de citoyen responsable?
Merci. Monsieur?
Oui, bonjour, moi c'est Pierre Chénier. Alors c'est ça, j'entends des mots comme responsabilité, cynisme. J'ai l'impression, de façon globale, que bien là, on parle des médias comme tels, mais si on élargit un peu ce qu'on voit à la télévision, il y a aussi tous les commanditaires qui, des fois, me paraissent tellement, débilitants d'une certaine façon. Là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de stratégie pour rendre le citoyen un peu inconscient ou un peu irresponsable. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une conspiration ou quelque chose comme ça, là. Mais en tout cas, je regarde ce qui se passe là, de façon globale, puis justement, on perd l'intérêt de la chose publique. Est-ce que c'est à cause de cette stratégie qui nous est martelée à chaque jour qui fait que ce qu'on peut faire dans tout ça? Alors, je ne sais pas votre opinion là-dessus. Là.
Merci beaucoup. C'est drôle. Je vais les prendre peut-être toutes mélangées puis conclure avec ça. J'imagine qu'on va arrêter là ensuite. Oui? Bon, je suis toujours capable d'en prendre si vous voulez aussi, mais admettons que ce sera une première conclusion, si c'est le cas. Ce qui m'avait fasciné chez Chris Hedges quand on l'avait reçu à Montréal, puisqu'il m'a donc c'est vraiment un journaliste qui s'est débranché, hein, qui a débarqué du monde journalistique tel qu'il était fait, parce qu'il a commencé à prendre des positions davantage politiques. Le livre qu'on lançait était celui, je pense, je me rappelle plus comment c'est traduit, mais c'est la mort de l'élite libérale américaine. C'est ce dont il parle dans son livre. Et ce qu'il essaie de montrer, puis qui me semble extrêmement intéressant, puis qui revient peut-être à la dernière question qui a été lancée, c'est comment, dans les années 80, dans les années 90, tout le débat intellectuel, la volonté de même avoir des réflexions en commun a été attaqué par principe. Ce n'est plus tellement telle opinion ou telle autre qui est attaquée, c'était le fait même d'être porteur d'une certaine culture, d'être porteur de juger important ces débats-là. C'est ça qui était problématique aux États-Unis. Et il nous décrit la décrépitude de cette élite libérale qui s'est, en fait, enfermée dans les universités et dans certains lieux pour se parler à elle-même et qui n'a plus du tout de contact avec le grand public. Mais sans dire que c'est la même chose qui s'est passée au Québec, on peut quand même tracer des parallèles. Et on a souvent tendance, dans certains milieux, à dire, on sait bien au Québec, il y a un anti-intellectualisme, bon, etc., etc. On connaît la chanson. Mais je pense que c'est nous donner à nous beaucoup d'excuses. Je pense qu'il y a aussi, on a eu beaucoup de difficultés à parler clairement aux gens, à parler aux gens sans les prendre pour des imbéciles, mais sans aussi tomber dans du jargon. Je trouve qu'il y a il y a des décennies où on a été plutôt assez ennuyeux, notamment à gauche. Et je pense qu'on s'est fait mal collectivement là-dessus. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Chris Hedges. Je veux revenir sur les responsabilités individuelles. Bien sûr, il faut être le plus probe possible et faire les choix les plus logiques et les plus rationnels par rapport à nos conséquences sur la société dans laquelle on vit. Mais à un moment donné aussi, il faut mettre en place les structures sociales pour que les gens prennent les meilleures décisions possibles. Et je trouve que dans notre société, on a très peu fait ça. Je donnerai l'exemple, par exemple, qui pour moi est une réflexion quotidienne, du transport. Je pense que tout au Québec conspire, je reviens à ce terme, pour nous faire prendre notre char le plus souvent possible. Et oui, on peut bien sûr dire aux gens, prenez pas la voiture, ça pollue, etc., et moraliser la population. C'est-à-dire, vous êtes des mauvais citoyens, citoyennes, vous devriez faire du transport actif, etc. Je vous donne un exemple. J'habite Montréal. Je pourrais facilement, à Montréal, grâce à un service de vélo en libre-service qui s'appelle Bixi, prendre un vélo pour aller au bureau. J'en ai pas vraiment besoin, j'y vais à pied. Je préfère ça. Mais la façon dont est configuré le trafic dans la ville de Montréal fait qu'il est extrêmement dangereux pour ma sécurité que je prenne un vélo aux heures où je m'en vais au bureau. Le reste du temps, ça va. Si je prenais le vélo à 10 heures, ça va. Il n'y a pas tant de trafic que ça, ça jamais. Mais sur Ontario, qui est la rue que j'arpente pour me rendre au bureau, ben en fait, il y a du trafic tellement que c'est collé, les voitures sont collées les unes sur les autres. Il faut que je slalome entre les rétroviseurs, les miroirs des voitures pour ne pas les accrocher. Bien sûr, ça peut être agréable une fois de temps en temps si on aime ce genre de sport, mais pour quelqu'un qui veut s'en servir comme moyen de transport, c'est plus dangereux qu'autre chose. On ne favorise pas que j'emprunte ce moyen de transport-là, mais pas du tout. Et il n'y a juste pas de piste cyclable qui fait ce trajet-là. Elle n'existe pas. C'est pas que je ne veux pas la prendre, elle n'est pas là. Faire une piste cyclable, ça ne demande pas des millions, ce n'est pas hors de notre portée. Là. On peut faire ça très facilement. Mais ça, c'est un exemple. Se déplacer au Québec entre les villes, c'est pire qu'il y a 10 ans. Ça coûte plus cher, il y a moins d'autobus, et la qualité de ces véhicules va en décroissant. Alors, on est dans une situation où on encourage les gens à prendre le char. Évidemment, le jour où on leur offrira un bon système, s'il y en a encore des tatas qui prennent le char pareil, là, on pourra leur dire, vous prenez pas vos responsabilités. C'est vrai, on aura raison de leur dire. Mais avant qu'on leur offre la possibilité de le faire, je ne pense pas que la moralisation est la bonne voie. Même chose pour le système de santé. Les gens vont à l'urgence pour rien. C'est probablement vrai. Mais tant qu'on leur a pas offert une autre option intéressante, facile, qui ne leur prend pas de temps, qui est proche de chez eux, bien, les gens, quand ils se pensent malades, ils vont à l'endroit où ils pensent qu'on va y guérir. C'est normal. Et c'est la bonne façon d'agir. S'ils restaient chez eux alors qu'ils pensent qu'ils sont malades, on serait collectivement moins bien. Mais si on leur offrait quelque chose où c'est facile, et on avait eu une bonne idée au Québec avec les CLSC, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je vais sur les deux dernières questions qui se rejoignaient sur la question de se tenir informé, de pourquoi est-ce qu'on nous parle de toute cette... est-ce qu'on conspire à nous amener à se déresponsabiliser puis à ne pas être des bons citoyens et tout ça? Écoutez, sur la question de se tenir informé, je pense que maintenir une lecture assidue des meilleurs médias qui sont à notre disposition en ce moment, c'est déjà une bonne idée. Que ce soit Radio-Canada, Radio ou Le Devoir, par exemple, qui sont les moins pires médias qui sont à notre disposition, c'est déjà un bon début. Mais ne pas consommer que des médias. Lire des livres sur des sujets. Il me semble que ça nous amène ailleurs. Ça nous amène à des réflexions un petit peu plus assises. Ça nous permet de faire les liens, d'oublier les omissions. Ça nous permet de justement avoir du contexte et du jus. Au Québec, on a une chance extraordinaire. Il y a deux belles maisons d'édition, dont une qui est mon éditeur, que sont Lux et Éco-Société, qui produisent des essais politiques de très belle qualité, pas les miens, les autres, bien sûr, il me semble, sont extrêmement riches et nous sortent une quinzaine, une vingtaine de livres par année. Ce n'est pas comme si on avait chacune. Ce n'est pas comme si on n'avait pas de choix. Il y en a des choses à lire et pour s'informer. Et on s'est doté de ça depuis le milieu des années 90. Et pour moi, ça a eu une importance sociale très grande, le fait qu'on se soit doté de ces maisons d'édition-là, qui ont bien sûr traduit des textes auxquels on n'avait pas accès parce qu'ils étaient juste disponibles dans d'autres langues, mais qui ont développé aussi des intellectuels organiques au Québec, bon, Gramsci ressort, qui sont, par exemple, quelqu'un comme Alain Deneau, qui fait une production intellectuelle qui, me semble-t-il, est majeure au Québec. Alain Vadeboncœur, qui nous fait du très, très beau travail sur la question de la santé. Et je pourrais là en nommer... Et là-dessus, il y a une troisième maison d'édition qu'il ne faut pas oublier, qui est là depuis bien plus longtemps, Remue Ménage, une des seules maisons féministes dans le monde. Et elle est au Québec et elle publie des choses essentielles. Donc, il me semble qu'on a là des richesses qu'il faut exploiter. Et se tenir informé, c'est aussi se cultiver par ces écrits-là. Maintenant, est-ce que tout ça est une conspiration qui vise à nous rendre apathiques? Écoutez, là-dessus, je suis assez d'accord avec Noam Chomsky. Il dit souvent, « Ah, on vient, il y a plein de gens. » Imaginez sa vie là-dessus, ça me fait rire. Il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, vous, vous avez compris », puis là, qui me racontent des histoires de complots, puis de tout ça. Ils disent « Je réponds toujours la même chose. On n'a pas besoin des complots pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas besoin des conspirations pour saisir le fonctionnement du système qu'on a devant nous. Tout ce qu'on a comme élément est déjà amplement suffisant pour saisir pourquoi les gens sont apathiques. Comme d'ailleurs pour saisir pourquoi tant d'entreprises font tant de profits et tant de monde meurt de faim. On n'a pas besoin d'une salle en fumée avec des gens avec des cigares qui se frottent les mains en déplaçant des pièces sur des cartes. C'est pas nécessaire. C'est un objet de pensée qui est inutile. Tout est devant nous. Le système politique, le système économique, ils sont assez clairs à comprendre, ils sont assez limpides et ils nous montrent quotidiennement la domination, l'exploitation, l'asservissement des gens. Les théories du complot sont inutiles dans ce cadre-là. Et je suis assez d'accord avec l'analyse de Chomsky. Je pense qu'on a tous les éléments pour comprendre ça. Et on les voit, les adversaires. Ils ne sont pas cachés. Ils sont là. On peut dire, on peut pointer du doigt, on peut nommer. En conséquence, je pense qu'on a tous les éléments pour s'informer, comprendre, mais surtout agir politiquement. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a un tirage.
Là, on va vous faire passer
oui.
Un rôle actif.
C'est vrai?
Un rôle actif. Vous parliez d'agir.
Agissons.
T'as plus de voix. Bon, Sophie n'a plus de voix.
Bonsoir. Si vous voulez bien remplir vos sondages qu'on va ramasser, puis on va faire tirer un ouvrage de Monsieur Tremblay-Pépin. Yeah. Puis là, c'est le grand moment. On fait tirer notre machin.
Wow.
Notre iPad mini, etc.
Moi, j'ai pas de nom là-dedans.
Mais non.
Maudite affaire. Alors, je regarde pas, là. Qui est le chanceux, la chanceuse? Alors, il s'agit de Michel Kesselmann.
Est-ce qu'il est ici? Bon, ben. C'était quoi le règlement? Non, c'était les gens qui nous avaient amené des nouveaux membres. Mais vous pouvez quand même participer en remplissant votre sondage.
Oui.
Qu'on va ramasser maintenant.
Malheureusement, vous allez avoir un livre plat à la place d'un iPad. Mais bon. On fait ce qu'on peut, hein?
Puis on va faire un kiosque. C'est ça. On va faire une table de signature à l'extérieur. On va avoir les livres en vente. Et puis vous allez pouvoir les faire dédicacer. Alors, on se rencontre à l'extérieur tout à l'heure. Merci.